Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, vendredi 1er juillet, voici venu le temps des juilletistes. Je ne veux pas avoir de problème avec la tribu des Aoussiens, on peut les faire un peu bisquer. En tout cas, c'est le moment des départs en vacances, mais de la Turquie et la Tunisie, en passant par la Grèce, tourisme et géopolitique sont de plus en plus imbriqués. Avec quelles conséquences pour les touristes et le secteur du tourisme? On en parle en compagnie de mon camarade Thierry Garcin des enjeux internationaux. Bonjour Thierry.
Et bonjour Guillaume.
Et de Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris qui publie avec Yves Lacoste à la rentrée Géopolitique de la nation France. Frédéric Ancel, on a parlé de la Turquie avec l'attentat qui s'est déroulé à l'aéroport d'Istanbul. Avec quelles conséquences pour un pays qui vit beaucoup du tourisme?
Avec des conséquences évidemment économiques, hein, extrêmement graves. Moins d'ailleurs pour la Turquie que pour la Tunisie par exemple, hein, qui a été très durement frappée à plusieurs reprises. Le tourisme, c'est plusieurs points du PIB turc. Alors c'est pas négligeable parce que depuis quelques années, depuis 2 ans très particulièrement, je regardais les chiffres ce matin, le tourisme en Turquie a baissé d'environ un tiers. Donc ça constitue un point noir, pas seulement pour le pays de manière générale, mais pour des secteurs d'activités touristiques particuliers, pour des secteurs géographiques particuliers, notamment aux alentours d'Antalya, au sud. Et puis, il faut rappeler que les terroristes cherchent... Enfin, les terroristes modernes, hein, c'était pas le cas des anarchistes en 1900. Enfin, le tourisme en 1900 était quand même assez embryonnaire. C'était pas non plus le cas des brigades rouges, hein, dans le terrorisme rouge dans les années 70, mais le terrorisme moderne, lui, cherche à frapper non seulement des hommes, mais des économies, et cherche à frapper à travers les économies d'un certain nombre d'États, les régimes politiques. C'est ça qui est intéressant, et on essaye de faire perdre non seulement la face, alors celle de Monsieur Erdogan, on y reviendra peut-être, aux yeux de son opinion et du monde, mais également de faire perdre son pouvoir à ce gouvernement. Il n'est pas sûr que ça fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est que la résonance d'un attentat dans un aéroport international est extraordinairement importante.
Mais justement, n'y a-t-il pas une contradiction entre cet attentat, le fait qu'on ait dit qu'Erdogan avait été extrêmement laxiste vis-à-vis de l'État islamique, il avait même encouragé pour l'utiliser comme une arme contre les Kurdes, et le fait que la Turquie a une économie qui dépend en partie du tourisme, n'était-ce pas étonnant qu'Erdogan joue en quelque sorte double jeu ?
Pas de ce point de vue-là. Parce que après tout, davantage que le tourisme, on a pour la Turquie des secteurs économiques qui fonctionnent relativement bien ou qui fonctionnaient bien ces dernières années avec une croissance relativement importante. Et le tourisme, pour être honnête, en Turquie, dans la croissance générale, correspondait à une part relativement, je dirais pas marginale, mais relativement mineure. Pensez maintenant au hub énergétique, qui est devenu la Turquie. Pensez aussi au matériel à faible valeur ajoutée qui sont vendus tout de même de façon très importante. Donc, je pense que Erdogan visait, si vous voulez, tactiquement des choses beaucoup plus importantes en étant effectivement duplice avec Daesh.
Thierry Garcin.
Oui, vous avez raison d'ailleurs de parler de géopolitique du tourisme. Alors c'est une expression tout à fait pertinente. Simplement, elle recouvre une réalité assez complexe. Alors je regardais les chiffres, je les arrondis vraiment à la louche. C'est un phénomène à la fois évidemment qui concerne les loisirs, puisque le tourisme de masse notamment est très saisonnier, en tout cas en été dans notre hémisphère. Et puis d'autre part, il y a des aspects économiques considérables. Je regarde les chiffres, je les arrondis. 1,2 milliard de touristes dans le monde. Je reprends les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, dont le siège est à Madrid. Et puis alors, une plus-value considérable puisqu'il y a 1200 milliards de dollars donc qui sont dépensés à ce titre-là. Donc il y a non seulement une géopolitique du tourisme mais une économie du tourisme international avec des zones évidemment très différenciées. Alors là aussi, il y a évidemment des grands facteurs qui rendent cette géopolitique du tourisme très évolutive. C'est bien sûr les conflits armés d'une façon générale et notamment les guerres, y compris les guerres intestines, par exemple on pense tout de suite à l'Afrique. Il y a la question du terrorisme qui est très divers d'une région à l'autre, et puis il y a la question aussi, il ne faut pas le minimiser, des épidémies, là aussi on peut penser ou à l'Asie autrefois avec le SRAS, etc., ou à l'Afrique avec Ebola, et puis il y a la question aussi des tragédies industrielles du type marée noire, etc., qui peuvent avoir un effet tout à fait notable sur des régions subitement dévastées par le pétrole.
Poursuivons cette géopolitique du tourisme avec la Tunisie qui, elle, du fait de sa frontière commune avec la Libye, subit les conséquences des remous de la région.
Oui, bah là, on est en revanche sur le deuxième poste hein, économique du pays. J'ajoute que ça fait travailler énormément de gens. Des gens travaillant dans le tourisme en général et notamment dans le monde arabe, ce sont des gens qui proviennent de ce qu'on appellerait l'umben prolétariat. Vous n'avez pas besoin d'une qualification très importante. Vous êtes saisonnier. Les Occidentaux, pas seulement, mais notamment les Occidentaux, je parlais aussi des Saoudiens, viennent sur vos plages. Vous les servez. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé, et par conséquent ça fait travailler beaucoup de gens qui sinon tomberaient dans la grande pauvreté. Qui dit grande pauvreté dit souvent radicalisation. Donc, vous voyez que sur un phénomène de double détente en quelque sorte, c'est très important pour un pays comme la Tunisie, mais pour d'autres également dans la région, de pouvoir poursuivre dans cette économie touristique. Un bémol tout de même, un pays comme l'Algérie, un pays comme la Libye, ce sont des États qui n'ont absolument jamais, du fait d'ailleurs d'une politique relativement paranoïaque, n'ont jamais ouvert leur société ou leur géographie, pourtant très belle, au tourisme. Ça ne les empêchait pas de gagner de l'argent par ailleurs. Mais ce sont des États pétrolifères, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. Vous voyez, donc on en revient à un pays qui, lui, a cruellement besoin du tourisme.
Et les conséquences plus générales sur la région, le Maroc également, Frédéric Ancel, qui a souvent été une destination pour les touristes du monde entier, les Français en particulier.
Alors le Maroc s'en sort mieux parce qu'il s'en sort mieux du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Hein. Nous avons affaire dès les années 2000 avec notamment Casablanca, mais d'autres villes également touchées par les islamistes radicaux. Nous avons affaire à une prise ou une reprise en main par l'État de la lutte antiterroriste, pas seulement sur le plan policier et militaire, sur le plan des réformes à l'intérieur du pays, réformes sécuritaires, mais également réforme concernant la Moudawana, le fameux code de la famille. Et de ce point de vue-là, je dirais que le roi Mohamed VI s'en sort quand même très bien. D'ailleurs, la preuve, il n'y a plus ces dernières années d'attentats au Maroc. Et du coup, ce qui a été dit est très juste, les touristes reviennent en masse. Car le touriste a la mémoire relativement courte, et tant mieux pour les pays touristiques. Quelques mois, parfois moins, après des attentats, eh bien on revient.
Thierry Garcin.
On a raison d'assister donc sur cette région qui est la nôtre, la région, le bassin méditerranéen, parce que, et notamment sur l'Europe, enfin, à la fois la rive sud et la rive nord et la rive orientale aussi du bassin méditerranéen, l'Europe représente à peu près la moitié des arrivées de touristes. Je vois 600 millions, évidemment, en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que la France, Dieu merci, est très bien lotie. 84 millions de touristes, ou 85-90, donc en 2014-2015, le troisième rang mondial pour les recettes, 43 milliards d'euros. Donc on voit que c'est un véritable pactole. C'est du commerce extérieur que nous faisons, mais à l'intérieur de chez nous en France. Et sauf erreur, il faut vérifier, nous étions talonnés il y a un an ou deux ans par les États-Unis, mais on peut se reporter aux chiffres qui sont publiés par le ministère, très bon chiffre, le ministère de l'économie, le ministère français de l'économie. Nous sommes, je crois, toujours, sauf erreur, la première destination mondiale. Et c'est tout à fait étonnant, je suis parisien de naissance, ça ne s'explique pas la façon dont les Parisiens traitent les touristes étrangers quand ils sortent d'une bouche de métro. C'est honteux pour la nation.
Vous êtes gentil quand vous voyez des touristes.
Moi, j'essaie de les aider, de leur montrer si la tour Eiffel est plutôt à droite ou à gauche.
Alors, elle est derrière vous.
Oui. Et alors, l'Espagne aussi est évidemment un réservoir considérable en Europe de touristes. Alors là aussi, il faut rappeler donc un certain nombre de ces réalités, et puis voir que les effets du tourisme sont à la fois très positifs pour les sociétés d'origine et les sociétés d'accueil, mais aussi très négatifs. Là, on pourrait en parler. Il y a du bien et du mal, c'est-à-dire que ça peut, notamment dans les pays d'accueil, dévaster des sociétés. Je l'ai vu à titre personnel autrefois dans certains pays en développement. Ces hordes de touristes l'été sont des formes d'invasion culturelle extrêmement délétère.
Frédéric Ancel, un dernier mot peut-être sur l'Égypte, qui elle a été frappée également de plein fouet par la fin de la manne touristique.
Oui, vous avez raison de parler de l'Égypte. Hein. C'est une véritable catastrophe pour l'Égypte. Là, on est sur une vingtaine de points hein, du PIB en direct et en indirect. Hein. Le tourisme est très très important pour l'Égypte sur deux régions. Il y a deux zones touristiques hein, principalement en Égypte. C'est évidemment le Nil avec les pyramides et puis le Sinaï. Et là, dans le Sinaï, il y a absolument personne pour une raison parfaitement évidente. On assiste à une véritable guerre civile. dans le Sinaï, avec des djihadistes qui, à un rythme hebdomadaire, parviennent à tuer des policiers, des militaires, et on l'a vu ces derniers mois, à frapper des avions. Et ça, pour l'Égypte, c'est d'autant plus grave que le maréchal Sissi a promis à maintes reprises, à travers son coup d'État institutionnel d'il y a 3 ans, le retour à la stabilité et par conséquent à la prospérité. Là, on n'y est pas. On n'y est pas et on y est d'autant moins qu'outre le tourisme, d'autres activités très lucratives sont potentiellement touchées. Je pense notamment, je le dis d'un mot, à la navigation sur le canal de Suez qui, elle, constitue la première rente, vous m'entendez bien, la première rente économique pour l'Égypte.
Thierry Garcin.
Alors, ce qui est très frappant, notamment dans ce bassin méditerranéen, c'est les mouvements de bascule dus aux événements géopolitiques du type terroriste. Par-delà les horreurs perpétrées par les touristes, il y a des mouvements de bascule. Alors, tout d'un coup, la Turquie perd son pouvoir d'attrait. Ce sera au profit, on l'a vu, du Maroc depuis quelques années. Mais il suffirait qu'il y ait ici ou là des attentats, comme ça avait été le cas en Égypte, à Louxor, il y a une quinzaine d'années. C'était en quelle année?
95,
donc il y a une vingtaine d'années. Et puis, il pourrait y avoir demain matin, évidemment, des attentats, personne ne le souhaite, ici ou là dans le bassin méditerranéen, qui transforment l'économie du tourisme, parce que ces mouvements de bascule sont des mouvements extrêmement violents pour les sociétés d'accueil, et Frédéric Ancel l'a très bien dit, c'est-à-dire que c'est toute une chaîne de la population qui participe du tourisme et ça va du plus pauvre au plus riche, et c'est une sorte de socialisation économique très complexe. Alors, ça c'est une chose importante, c'est ces mouvements de bascule. Et même sur le plan d'ailleurs macro-historique, regardez, il y a une trentaine d'années, qui allait visiter ces magnifiques sites historiques en Amérique centrale, Guatemala et ainsi de suite, qui allait au Pérou où il y avait une guerre civile, Sentier Lumineux. Aujourd'hui, l'Amérique latine est un havre de paix, entre guillemets, à part évidemment la Colombie et le Mexique, mais où il y a aussi beaucoup de touristes. Et donc, sur le temps long passé, ces mouvements de bascule sont tout à fait impressionnants. Et puis, qui aurait dit, il y a 30 ans, que le premier pays émetteur serait la Chine en matière de tourisme. Ils sortent de chez eux tout le temps.
Frédéric Ancel, tout cela profite à des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, on en a parlé. Cela rebat les cartes donc du tourisme à l'échelle internationale.
Oui, c'est vrai. C'est la Grèce, heureusement, j'ai envie de dire, profite de cette manne en quelque sorte touristique. Mais attention, le tourisme, c'est de la rente. Et c'est Thierry Garcin l'a très bien dit. Il suffit d'une épidémie, il suffit d'un taux de criminalité dont on va parler ici et là dans les médias davantage en Occident, soudain. Il suffit d'un attentat pour que des masses très importantes de touristes quittent ce pays. Et là, bah, vous vous retrouvez avec un déficit.
Et puis, en conclusion, Thierry Garcin, des points noirs dans le monde, qui sont des pays, là, pour le coup, où il vaut mieux ne pas aller du tout.
Alors, à l'inverse, Amérique latine et Asie, il n'y a aucune difficulté, à part quelques exceptions, comme d'habitude. Mais on peut dire que si on avait à tracer donc une zone de risque en ce qui concerne le tourisme, et pas seulement pour des questions terroristes, ça va en gros du Pakistan, donc l'ouest de l'Asie du Sud, jusqu'à la Mauritanie, et en prenant en écharpe, évidemment, toute la rive sud du bassin méditerranéen, et puis également une autre écharpe, si j'ose dire, du Proche-Orient, vers toute la bande saharo-sahélienne.
Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui plus de lieux abandonnés à l'anarchie, au chaos complet ?
Oui, il y a ce qu'on appelle les pays faillis, ce n'est pas tout à fait nouveau. Vous prenez l'Érythrée, vous prenez la Somalie qui n'existe plus depuis longtemps elle-même, vous prenez un certain nombre de pays. Il y en a de moins en moins, mais c'est de plus en plus terrible lorsque c'est le cas.
Frédéric Ancel.
Oui, alors je suis d'accord avec cette écharpe en quelque sorte tout à fait gigantesque qui va de l'Atlantique au Gange, et en même temps je n'apprendrai à personne ici que Londres, Madrid, Paris, malheureusement New York ont été touchés de manière extrêmement grave ces dernières années. J'ai envie de vous dire que le terrorisme est très mondialisé aujourd'hui, et notamment le terrorisme de type islamiste qui l'a frappé également Bali, qui l'a frappé ces dernières années l'Inde, donc des États ou des régions dans lesquelles on irait et on va d'ailleurs depuis de façon extrêmement tranquille. Donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, me semble-t-il, de point sur la planète qui soit totalement épargné ou d'autres sur lesquels on peut être sûr d'être frappé.
Peut-être de nouvelles destinations ou des destinations qu'on peut redécouvrir comme l'Iran, par exemple.
Alors l'Iran est un havre de paix, là aussi, en la matière, dans son environnement régional. Mais on peut aussi citer la France, puisque la France, très charitablement, les États-Unis, et officiellement, il y a quelques semaines, on dit que c'était un pays qu'il ne fallait pas recommander pour le tourisme.
Est-ce que nous le recommandons
chaudement.
Frédéric Ancel.
Oui, mais les Américains ont le capitalisme à géométrie variable et l'engouement touristique à géométrie tout aussi variable. Il faut bien évidemment aller visiter la France, y compris lorsqu'on est français.
7h55 sur France Culture. Merci messieurs. Je rappelle Frédéric Ancel que vous allez publier avec Yves Lacoste, Géopolitique de la Nation France à la rentrée.